Bienvenue à la table ronde numéro 3 du congrès du SNAP-CGT. Identifier et combattre les discriminations dans le monde de l'art. Avec Sophie Vella, étudiante pour l'asso Les Mots de Trop, Marie Daucher, photographe, et Pascale Obolo, cinéaste, chercheuse et plasticienne.
Ce week-end, nous invitons des artistes, des experts, expertes, spécialistes et représentantes et représentants de structures professionnelles à partager des points de vue sur les conditions économiques et sociales avec lesquelles l'artiste-auteur, l'artiste-autrice au travail compose et se confronte au quotidien, notamment à l'absence de rémunération. Nous souhaitons mener une réflexion collective sur les améliorations voulues par les artistes et l'ouvrir aussi aux utopies. Au plaisir de se rencontrer, échanger et débattre pour faire vivre le syndicat et faire reconnaître notre travail.
Épisode 10, présentation des actions, racisme et sexisme dans les écoles d'art.
Marie Daucher, qui est avec nous, qui est donc, vous êtes photographe et on va peut-être plutôt se tutoyer. Je sais pas ce qu'est-ce que vous préférez. Tutoyons-nous alors. Marie Daucher, qui est photographe et réalisatrice, et donc tu es engagée en faveur de l'égalité et de la diversité dans la photographie. Et tu es aussi membre du collectif La Part des Femmes, qui est un collectif qui milite pour plus de visibilité et de reconnaissance des femmes photographes. Et puis aussi, beaucoup de choses, créatrice de la plateforme Visual Art, avec laquelle tu fais des portraits d'acteurs et actrices des arts visuels. Et enfin, tu es aussi chevaleresse des arts et des lettres en 2021. Voilà. Ensuite, on a avec nous Pascale Obolo. Tu es cinéaste et chercheuse, aussi commissaire d'exposition, et tes travaux questionnent les archives, la construction des récits historiques dans une perspective décoloniale. Et tu es aussi fondatrice de la revue Africa Dalab, qui est une revue d'art contemporain, et dirigeante de l'African Art Book Fair, qui est aussi une foire d'exposition indépendante. Voilà. Et ensuite, on a Sophie Vella, qui est étudiante en design graphique à l'ESSABREM, et tu es cofondatrice de l'association Les Mots de Trop, qui lutte pour briser les tabous contre les violences systémiques en école d'art. Et tu es également membre de la collective typographique Bye Bye Binary. Pour commencer, peut-être pour repartir sur quelques bases de définition de qu'est-ce que c'est notre sujet. On va parler donc de rapports de domination, de violence systémique, et on peut commencer par dire que c'est pas des choses qui sont conscrites à la sphère, au milieu artistique, que c'est des systèmes qui structurent vraiment notre société, à la fois le système capitaliste, le patriarcat, un système raciste, colonialiste, et puis également validiste. Donc si on veut définir un peu ces termes, on entend. Alors ça va être très large et on aura le temps pour rentrer dans les détails, mais pour derrière patriarcat, une institution qui segmente la société en genre et donc qui naturalise les rôles et la répartition des rôles entre les hommes et les femmes. Donc voilà, et qui empêche toute dérogation à cette norme, et donc ça impacte à la fois les personnes femmes, mais aussi les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer, intersexes, etc., qui dérogent de cette binarité des genres et des sexualités. Et puis on peut, pour ce qui est du racisme et de la question colonialiste, post-colonialiste, les discriminations raciales, ethniques et religieuses s'inscrivent dans une structure systémique qui hiérarchise les personnes selon des critères ethniques. Et donc dans le monde de l'art, tous ces systèmes structurent aussi et régissent nos milieux. Notamment, un point en particulier dans le monde de l'art, c'est que il est particulièrement traversé, on en a parlé ce matin un peu, par la notion de réussite individuelle qui est du coup lié à ses origines sociales, de genre, raciales, etc., et qui conditionne l'accès au réseau, à la diffusion, aux commanditaires, et donc qui creuse les écarts de revenus, précarise, voire arrive à la déprofessionnalisation de certaines personnes, et à donc la disparition de franges entières de la population, du milieu artistique. Et donc c'est un constat qui est pas nouveau, mais qui est de plus en plus qui se fait entendre grâce au travail d'artistes, de collectifs, d'activistes, etc., dont, entre autres, vous faites partie. Et donc, j'aimerais bien que chacune d'entre vous nous parle de son champ d'action et quel constat vous avez fait dans votre champ particulier, par quels moyens, et quels effets on a pu voir advenir derrière ça. On peut peut-être commencer par vous, par toi, Marie Doucher, pardon. Notamment peut-être avec le travail d'abord personnel et puis avec la part des femmes pour visibiliser les femmes photographes à la fois dans le milieu du photojournalisme et de la photo artistique.
Merci. Donc oui, comme tu l'as dit, la société est bien entendu structurée par le sexisme, le racisme, et qui ont encore plus prise, je crois, dans les mondes de l'art, parce que y a des images qui sont des représentations très très fortes de ce qu'est un artiste, qui est forcément le génie et d'essence masculine. Les hommes créent, les femmes procréent. Enfin, on a toujours encore. Hein, on assiste pas mal à des discussions où ces stéréotypes, ces représentations sont extrêmement fortes. Moi, j'ai commencé à vouloir agir après les débats sur le mariage pour tous, qui m'avaient plutôt bouleversée. Et je me suis demandé ce que j'avais fait dans la société pour ne pas voir ce qui se passait, cette violence-là. Et il se trouve que très rapidement, j'ai assisté à une conversation où j'étais tout début 2014, où je disais qu'il n'y avait pas assez de femmes dans la photographie. J'étais avec des femmes et qui m'ont dit que j'exagérais. Donc j'ai commencé à compter, me mettant ainsi, sans le savoir, je l'ai su très rapidement après, dans une tradition féministe qui est que les femmes comptent. Alors compter les femmes et les hommes, c'est une chose, ça permet rapidement d'avoir raison, puisqu'il y avait 15% de femmes. J'avais tout compté, tout le secteur, édition, prix, tout le secteur de la photo en France. On était 15%, dans ces 15%, quand même, quand on exposait, c'était quand même avec des hommes, voilà. Et donc, à part le fait d'avoir raison là-dessus, j'ai commencé aussi à lire qui avait écrit sur ces questions, en fait. Et les seules choses que je trouvais, c'était des anglo-saxonnes qui avaient été traduites par Fabienne Dumont, une historienne de l'art féministe. Et puis, j'ai commencé à me tourner vers la sociologie du travail, sociologie de l'art. Et j'ai commencé à aller à des... J'ai fait tout un chemin, en fait, pour aller rencontrer des gens, pour aller poser des questions. Et puis, au bout d'un moment, j'avais établi clairement que l'hypothèse que j'émettais était juste et qu'il fallait changer les choses. Et j'avais lu, juste avant d'ouvrir un blog, une étude sur Livre Hebdo qui montrait très clairement que les hommes ne lisaient pas les femmes, de façon très marginale. Et donc, j'ai pris une identité d'homme pour ouvrir un blog qui s'appelle Atlante et Cariatide. Ça a été une bonne idée, puisque j'étais le mec progressiste, intelligent, qui posait bien le débat. C'est très bon pour l'ego. Moi, qui avais toujours un doute sur la pertinence de ce que je pensais, ça m'a fait faire level up, quand même. Et ce qui a été important, après, pour prendre des positions, une fois que j'étais redevenue une femme, donc une hystérique, Pol Pot, Marie Daesh, etc. Bon. Et donc, pendant un an, j'ai montré ça. J'ai commenté l'actualité photographique avec cette méthode, c'est-à-dire montrer, compter pour que les femmes comptent, interpeller les responsables d'institutions, donc en leur disant, voilà l'état des collections, des expositions, des prix que vous faites. Et puis, et donc, il faudrait changer, parce que c'est pas brillant. Et puis, donner des outils pour comprendre. Et il se trouve que... Voilà, après, j'ai fait tout un parcours seul. Et puis, à un moment, je pouvais plus continuer seule parce qu'il fallait passer à un niveau supérieur, interpeller plus largement. Et c'est en 2018 qu'on a créé un collectif qui s'appelle La Part des Femmes, et où nous avons très largement interpellé pour faire bouger le Festival des Rencontres d'Arles, qui depuis 50 ans manifestait son machisme le plus pur. Et ça faisait plusieurs années que je les interpellais, rien ne bougeait. Et là, donc, on a fait une tribune dans Libération. Ça a été beaucoup signé en France et à l'international, qui amène de l'argent au festival. Et le ministère aussi a été très actif pour faire bouger. Et en 2019, ça a basculé. Ce qui est important, puisque les Rencontres d'Arles, c'est le plus gros festival de photographie mondial. Donc, ça sert d'exemple. Donc, à partir de là, il fallait qu'on soit nombreuses, etc. Bon, après, j'ai développé d'autres méthodes, mais je vais laisser d'abord parler.
Nous, on a créé la revue Africada il y a 10 ans. Et en fait, c'est une revue qui est en fait spécialisée en art contemporain africain et diasporique. Et parce qu'à cette époque-là, il y avait très très peu d'artistes issus des diasporas et africaines qui étaient montrés dans les musées en France. En termes de commissariat, il y a très peu de commissaires racisés en France. Moi, j'exerce en tant qu'indépendante. Je travaille beaucoup plus à l'étranger. Il y a pas de, dans les institutions françaises muséales, il y a pas de commissaire racisé. On est au 21e siècle. Et la revue Africada, l'idée, c'était en fait d'écrire une certaine histoire de l'art des minorités qui étaient totalement invisibilisées, effacées. J'ai enseigné un petit peu en école d'art. L'année dernière, par exemple, j'ai enseigné en école d'art à l'île de la Réunion. L'histoire de l'art qui est enseignée, en fait, à La Réunion, c'est-à-dire qu'on peut passer 5 ans à avoir son diplôme en tant qu'étudiant réunionnais. Il n'y a pas du tout, on parle jamais des artistes réunionnais. Donc nous, le travail que fait Africada, c'est d'essayer de réécrire une histoire de l'art inclusive qui inclut en fait aussi l'histoire des artistes de la diaspora et des territoires d'outre-mer qui sont totalement inexistants dans cette histoire de l'art qui est enseignée. Et du coup, on en arrive en fait. Nous, on a un collectif d'artistes chercheurs et militants racisés. On travaille sur des thématiques qui nous semblent importantes et intéressantes en résonance avec les urgences sociétales. Et là, ça fait depuis 1 an qu'on travaille sur un numéro sur les discriminations en école d'art en France. Moi, j'avais déjà fait un film il y a 3 ans. Sur les discriminations en école d'art en Belgique. Et c'est suite en fait à ce projet qui émanait d'une recherche que j'avais fait au musée de Gand, où j'avais travaillé pendant 2 ans dans leur collection. Et l'idée, c'était de peut-on féminiser une collection et comment aussi décoloniser une collection. Et dans la collection du SMAC, il y avait 13% de femmes artistes. Et dans les 13% de femmes artistes, il y avait 0% d'artistes femmes racisées. Et du coup, j'ai décidé en fait de faire un film. Donc, en termes d'identification et d'identification, comment identifier les questions de discrimination, moi, je m'intéresse plus aux questions de discrimination raciale, parce que c'est les plus invisibilisées par rapport à toute l'année de recherche qu'on a fait là en école d'art. C'était pas évident de recevoir des témoignages. On a travaillé avec des étudiants racisés qui avaient subi les questions de discrimination, mais c'est pas évident de le faire remonter en fait auprès des écoles, parce qu'en fait, comme disait Marie, ma voisine, il faut compter. Et en France, c'est difficile de compter puisque la question de la race pose un problème en France. Donc, comment comptabiliser les injustices faites pour des personnes de couleur? Et comme en fait, il n'y a pas de plainte sur les questions de discrimination raciale, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de racisme dans les écoles d'art. Ça, c'est un peu les échanges qu'on a eus, puisque si on n'a pas la preuve par le chiffre, c'est difficile de faire remonter en fait que des étudiants racisés subissent des questions de racisme en école d'art.
Au départ, on était 3 collègues et en 3e année, on s'est rendu compte de 2 constats. Le premier, c'est que l'école d'art était considérée comme un lieu super safe, super bienveillant, où il ne se passait pas trop de choses mauvaises. Et le deuxième constat, c'était que les femmes qui sont en grande majorité étudiantes en école d'art disparaissent après la sortie de l'école et qu'on se retrouve avec un nombre, donc là à nouveau la question de compter où sont les femmes dans le milieu de l'art après l'école alors qu'elles sont en majorité sur les rangs de l'école. C'est voilà quelque chose qui nous a un peu alerté. Et ce qu'on a commencé à faire en fait en 2019, c'est de récolter des témoignages au départ dans notre école, puisqu'on était toutes les trois confrontées à des discriminations qu'on a subies ou dont on a été témoin. Et en voulant, donc au départ, c'était vraiment parti d'une colère contre un enseignant en particulier. Et on s'est rendu compte, on le savait déjà, mais le fait d'en parler avec d'autres, on s'est rendu compte qu'en fait, dans notre école, ne serait-ce que dans notre école, il n'y avait pas un seul enseignant qui posait problème, mais que dans chaque option, il y avait un peu la bête noire et que tout le monde le savait, mais que personne n'en parlait. Et du coup, on a lancé une campagne d'appel à témoignages début 2020, qui est encore ouverte, sur laquelle on a reçu aujourd'hui plus de 400 témoignages qui viennent de 100 écoles différentes en France, en Belgique et en Suisse. Et l'objectif, nous, qu'on avait dans cet appel à témoignages, c'était de nous baser sur ce qui est appelé micro-agression. Donc, c'est un terme qui n'est pas utilisé pour minimiser ces agressions, mais plutôt pour dire que c'est des agressions qui sont minimisées de l'extérieur parce qu'on estime qu'elles sont moins graves, c'est-à-dire tout ce qui est des agressions verbales, des phrases du quotidien qui sont violentes mais qu'on n'estime pas assez graves pour être vraiment des discriminations. Nous, c'est ce qui nous a intéressé. Donc, dans notre appel à témoignage, on appelait vraiment à citer une phrase qui avait pu être entendue, qui avait choqué ou qui était déplacée. Et de ces phrases qu'on a reçues, on a fait des affiches qui sont disponibles et imprimables par tous. Et donc, l'idée était que chacun et chacune puisse s'en emparer dans son école, les afficher sur les murs, et par là, à la fois permettre aux victimes de reconnaître qu'elles n'étaient pas seules et que c'était des choses qui étaient vécues par d'autres, aussi voir que ce dont elles étaient victimes, ce qu'elles avaient vécu, c'était pas normal, parce que, comme on l'a dit, il y a beaucoup de gens qui vivent des trucs et qui estiment pas que c'est grave et qui en parlent pas, et de voir d'autres personnes en parler, des fois ça peut permettre de se dire, ah oui, en fait, moi aussi j'ai vécu ça et c'est pas normal. Et enfin, le dernier point de ces affiches qui étaient faites pour être affichées sur les murs des écoles, c'était aussi de confronter les personnes qui sont à l'origine de ces discriminations. Et en fait, on se rend compte que ça a marché parce qu'il y a même des enseignants, qui sont pas problématique en soi, qui sont venus nous voir en disant « Ah bah, je me suis reconnue là-dessus » et en fait, j'avais pas réalisé avant de le voir affiché comme ça que c'était pas OK de le dire. Et c'est ce genre de retour qui nous montre que, en fait, pour nous, c'est ça, ça fait partie des bases des discriminations, et pour nous, il y a un réel enjeu sur pourquoi est-ce que les femmes disparaissent, c'est qu'en fait, c'est déjà hyper compliqué de faire ces 5 ans en se sentant bien. Donc déjà, le monde du travail après est pas hyper riche pour nous, avec plein de questions dont qu'on a évoqué aussi ce matin sur le congé maternité, tout ça. Mais si en plus pendant nos 5 ans d'études on se prend des murs au quotidien, ça aide pas à avoir envie de continuer. Donc nous, c'est un travail qu'on mène maintenant depuis 3 ans de récolte de témoignages, de partage de ces témoignages, mais aussi de création d'outils de défense et de sensibilisation pour que les étudiants et étudiantes puissent avoir des réponses à ça, puissent s'informer et créer à leur tour des choses dans leur école pour aussi faire face quand il y a, par exemple, un enseignant qui pose problème, d'avoir des ressources pour dire, en fait, oui, il y a des choses qui sont possibles et on peut en parler. Et voilà.
On peut enchaîner sur cette question des écoles d'art, parce que je sais que donc Pascal, tu avec la revue Africana Lab, vous travaillez sur un numéro spécialement dédié à cette question. Est-ce que tu l'as déjà un peu évoqué juste avant, mais est-ce que tu peux nous parler un peu des constats et des conclusions auxquelles vous arrivez, qu'elles soient systémiques ou alors des choses plus des exemples très concrets de que vous avez récoltés, et voilà.
En fait, c'est la première fois qu'on fait un numéro où on galère un peu en termes de texte. Et par exemple, on est un petit peu, par exemple, déçus parce qu'on a reçu très très peu de textes de professeurs, de directeurs d'école d'art, on en a reçu que 2 qui ont voulu se pencher sur cette problématique et puis proposer des textes. La plupart, en fait, des textes qu'on a reçus, ce sont des textes des étudiants ou d'artistes qui ont été étudiants et qui ont subi du racisme et qui trouvaient important pour eux de pouvoir, en fait, avoir un espace de discussion et de pouvoir en parler, et puis aussi de dire que ça existe, parce que c'est, comme je le disais, c'est pas évident, en fait, parce que c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de plainte en termes de discrimination raciale. Après, moi, je trouve que sur les autres formes de discrimination ou même sur les questions sexistes, il y a eu quand même, je dirais, des progrès, parce qu'il y a eu des plaintes qui ont été jusqu'au bout, avec des étudiants qui ont gagné certains procès, etc. Et en ce qui concerne, alors que les discriminations raciales, c'est quelque chose qui est tabou, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et les retours, en fait, qu'on a eu, on a eu beaucoup de retours d'étudiants, soit par rapport au sujet de mémoire, où en fait, certains étudiants racisés, en fait, travaillent sur les questions décoloniales. Et en fait, il y a une forme d'incompréhension avec les profs qui sont censés, en fait, les accompagner sur ces problématiques-là, et qui comprennent pas non plus les sujets dont les étudiants, en fait, sur lesquels ils font leur recherche et ils travaillent. Et ils sont obligés de faire, en fait, comme ils appellent ça, un espèce de double cursus, où en fait, à côté, ils sont obligés d'aller chercher ailleurs, en fait, les informations nécessaires pour pouvoir, en fait, travailler sur leur mémoire. Où il y a, par exemple, il y a une étudiante, en fait, qui nous a parlé, en fait, d'un cas où elle travaille sur la performance, et la performance portait plutôt sur le stand-up. Et donc, sa prof, qui était censée, en fait, l'aider pour son mémoire, déjà, elle a commencé à lui dire, mais en fait, le stand-up, en fait, c'est pas une discipline qu'on apprend en école d'art, et en plus c'est fait par des Noirs et des Arabes. Donc c'est quand même une personne qui est censée accompagner et aider l'étudiant à faire son mémoire. Du coup, cette étudiante, en fait, elle était hyper choquée. Donc après, elle ne voulait plus travailler avec la prof. Nous, elle nous a contactés. Il lui restait 3 semaines pour pouvoir, en fait, terminer son mémoire. Sauf que comme elle avait refusé d'être accompagnée par la prof, c'était mal écrit, c'était pas bien ordonné. Il lui manquait beaucoup en termes de bibliographie, d'auteur. Il y avait pas grand chose, etc. Donc, on a essayé un petit peu, en fait, de l'aider, de lui donner quelques outils, etc. Mais c'était compliqué.
Et de ton côté, Marie, toi, tu proposes entre autres un workshop, une intervention à destination des étudiants et étudiantes en école d'art pour parler, alors plus forcément des difficultés qui peuvent être confrontées au sein des écoles, mais plutôt à ce qui les attend après dans le milieu pro. Et tu peux nous parler un peu de comment ça se passe et qu'est-ce qu'il en ressort. Je sais pas combien de fois tu l'as réalisé.
Oui, c'est une performance que j'avais montée avec le jeune homme qui m'assistait quand je tournais visuel.art. Qui lui avait fait un master en inégalité et discrimination à Lyon 2, qui est voilà. Et en fait, bon, on a, je pense, avalé toutes les études sur le sujet. Ça peut aller du recrutement en école d'art par Mathilde Provençal, qui est fort intéressant. Enfin, on avait toutes les études, tous les chiffres pour voir un peu, pour faire une projection. C'est-à-dire que maintenant, si rien ne changeait dans une école d'art, on pouvait, avec la population qu'on avait devant nous, on pouvait savoir qui, en fin de carrière, aurait eu une carrière qui lui permettait de vivre, d'avoir une reconnaissance, etc. Et donc, on avait monté cette espèce de performance où chaque élève tirait une identité, donc au hasard. Hein, donc, un grand gaillard pouvait être une fille, et vice-versa, noir, arabe. Enfin, on avait statistiquement, en fait, reconstitué des gens en première année d'école d'art, et on leur faisait expérimenter par tranche de 10 ans en fonction de témoignages qu'on avait, qu'on leur faisait lire, on leur faisait expérimenter en fait une avancée de carrière ou pas. Donc physiquement, ils avançaient, ils reculaient, ils sortaient, ils pouvaient revenir, ça dépendait aussi des congés maternité, enfin de beaucoup de choses. Et ils et elles expérimentaient de pouvoir mettre dans leur bouche des témoignages qui est que jamais. Je n'ai pas la même expérience de vie que Pascal, si à un moment je dis quelque chose, enfin qu'elle expérimentait, je vais toucher cette chose-là. Et donc l'expérience était vraiment très intéressante. Et à la fin, bon, il y en a 4 qui restent. Hein, il y a 3 hommes et une femme. Et donc c'était vraiment super intéressant. Et après, on avait une discussion. Et systématiquement, ils nous ont dit, bah dites donc, vous devriez former nos profs.
C'était le 10e épisode des tables rondes de la SNAP CGT. Enregistrement et montage, Clara Rivoisi. Vous pouvez aussi retrouver ces podcasts sur www.radiocampusparis.org ainsi que sur www.snapcgt.org.